Vous m'entendez? Impeccable, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Là, on voit que les vacances touchent à leur fin, l'église se remplit. Je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Je veux vraiment souhaiter la bienvenue à toute personne qui vienne pour nous visiter, qui vienne la première fois. J'aimerais en particulier, tout particulièrement, souhaiter la bienvenue à Jean-Daniel et Pascaline qui viennent nous voir du Burkina. Ça fait plaisir de vous voir. On veut aussi saluer Florent qui nous vient du Tchad, qui était là pendant 5 semaines, c'est ça, en formation en Suisse. On veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Juste pour petit rappel, Jean-Daniel viendra à la fin du culte pour nous donner un petit témoignage de ce qui a été fait au Burkina suite à la persécution dans le nord par les groupes un peu rebelles. Et ce matin, j'aimerais rebondir sur le message de Pasteur Phil. Il y a quelques semaines, Pasteur Phil nous a encouragés à changer de rythme pendant ces temps de vacances, pendant ces temps d'été. Pasteur Phil nous a encouragés à prendre du calme, à prendre du temps pour passer avec Dieu, redécouvrir cette proximité, cette intimité que nous pouvons avoir avec Dieu, loin de nos agendas surchargés. Et ce matin, au retour des vacances, j'aimerais, moi, vous encourager avec un message de reprise. Wow, ça y est, les vacances touchent à leur fin. Pour la plupart, vont reprendre demain. Les écoles en Suisse, peut-être vous avez encore 1 ou 2 semaines. Si vous êtes en vacances, c'est pas grave, vous pouvez quand même rester. Ce message peut vous parler aussi. Vous allez reprendre à un moment ou un autre. Ce message est une reprise. Je pense, aujourd'hui, que nous sommes sur Terre pour quelque chose. Je pense que nous ne sommes pas ici par hasard. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour être ici. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Pas seulement certains ont une destinée, pas juste certains sont appelés à servir le Seigneur. Je pense que chacun, chacune a une destinée. Chacun d'entre nous a une destinée. Que vous soyez chrétien ou non chrétien ce matin, que vous ayez donné votre vie à Jésus ou pas encore, vous avez une destinée. La seule différence, c'est que nous croyons, nous, qu'en accomplissant les œuvres de Jésus, nos actes ont une répercussion dans l'éternité. Dans l'éternité. Chaque vie sauvée, chaque vie donnée à Jésus est promise à l'éternité, une éternité de bonheur. Mais ces destinées, parfois, peuvent être compliquées. Et à l'image de l'apôtre Paul qui va décrire cette destinée, ce parcours, cette vie, à une course. Et j'aimerais vous lire, pour commencer, dans Timothée, au chapitre 4, versets 7 et 8. « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Paul va écrire cette lettre à la fin de sa vie. Là, il sait que la fin est proche, il sait que bientôt c'est fini pour lui. Et à ce moment-là, il nous dit pas juste « ben voilà, j'ai vécu ma vie, c'est bon, tranquille ». Non, non. Il dit qu'il y a quelque chose derrière, il y a une couronne de gloire qui va nous être donnée. Mais il compare cette vie à une course, parce que la vie n'est pas toujours facile. Et ce matin, même si je vais aborder des moments difficiles que nous pouvons voir, je crois aussi que la vie est remplie de bonnes choses et de bénédictions. Ne sortez pas de là en disant « ouais, ben c'est bon, moi, c'est comme ça, je veux pas ». Non, non, j'aimerais juste aujourd'hui vous encourager, nous encourager en prenant quelques situations difficiles que nous pouvons rencontrer et les illustrer pour nous apporter quelques clés pour aller de l'avant. Et pour ça, j'avais besoin d'une bonne illustration. Et comme la première diapositive nous l'a montré, cette illustration sera le rugby. Ayant joué pendant plusieurs années au rugby, c'est un sport que j'aime beaucoup. On est totalement dans le bon timing, puisque dans un mois, c'est le début de la Coupe du Monde. Pendant un mois et demi, nous aurons la joie de pouvoir voir des joueurs évoluer sur le terrain. Je sais que plusieurs aussi parmi vous ont joué au rugby ou aiment ce sport. Et vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, ça va vous parler quand même. S'il y a des termes techniques que j'oublie d'expliquer, n'hésitez pas à lever la main et dites « je comprends pas » et je vous expliquerai, il n'y a pas de souci. Pourquoi le rugby ? Parce que j'avais besoin d'un vrai sport. Je suis désolé pour mes amis, mes frères et sœurs footballeurs. Jésus vous aime quand même, mais il me fallait un vrai sport. Pourquoi le rugby ? Parce que je crois que la vie, parfois, peut être rude. Parfois, la vie peut être dure, traumatisante. Elle peut être violente. Et pour ça, j'avais besoin d'un sport rude, d'un sport violent et d'un sport traumatisant dans lesquels pouvoir illustrer certains passages de nos vies. Et vous voyez là, il n'y a pas de distinction homme, femme, au rugby, tout le monde met la tête. Mon défi donc ce matin, c'est de vous encourager à la fois et à persévérer dans votre destinée, dans la course de la foi, et en plus, vous faire comprendre certaines règles du rugby. Vous allez voir, c'est facile. Et tout ça, ça commence par un appel. Mais l'appel, parfois, on le reçoit et on peut le recevoir de différentes manières. Je ne vais pas développer l'appel, ce n'est pas le cadre de ce matin, mais vous pouvez développer l'appel comme par exemple un Matthieu. Jésus l'appelle, il se lève directement et il va le servir, il ne réfléchit pas. Mais vous pouvez recevoir l'appel aussi comme un Gédéon. Mais non, pas moi, je suis pas assez fort, j'ai pas les qualités, je peux pas. Et je vous avoue que quand j'ai reçu mon appel, j'ai agi comme un Gédéon. Alors, Seigneur, tu m'appelles à ça, mais c'est pas ce que je veux, je suis pas capable. Et puis quand il faut commencer un collège biblique, non mais t'es omniscient, tu connais mon parcours scolaire, tu sais quelle place a l'école dans ma vie. Pour certains, ma maman est pas là ce matin, mais je pense que si elle serait là, elle serait aussi morte de rire. Mais en gros, je n'étais pas du tout scolaire. Et là, la réponse, c'est « Ok, ouais, je suis omniscient, mais je suis aussi omnipotent, je suis aussi tout puissant. Ne compte pas sur tes forces. » Et comme il a dit à Gédéon au juge 6, « Va avec la force que tu as. Je marche devant toi, je combats pour toi, je te qualifie. » Nous sommes tous qualifiés. Que votre appel vous semble naturel, s'il n'y a pas forcément, votre appel n'est pas forcément à l'encontre de ce que vous pensez pouvoir faire, mais que ce soit naturel ou pas naturel pour vous, Dieu vous équipe, Dieu vous fortifie, Dieu vous envoie. Va avec la force que tu as. Nous sommes tous sur la feuille de match. Dans l'équipe de Dieu, dans l'équipe céleste, il n'y a pas de coupeur de citron. Nous avons tous notre place sur le terrain, nous avons tous un rôle à jouer. Et on sait très bien que dans les sports d'équipe, même s'il y a quelques joueurs qui peuvent avoir des qualités techniques un petit peu plus grandes que les autres, on ne peut rien faire si l'équipe n'est pas derrière nous. On ne gagne pas un match tout seul. J'aimerais qu'on puisse voir quatre phases de nos destinées, quatre phases tirées du jeu du rugby. Ces quatre phases sont, la première, la conquête. On verra trois dimensions dans la conquête. Le deuxième, le tas ou le roc. Vous inquiétez pas, ce sera tout expliqué. Troisièmement, l'équipe. Et quatrièmement, la mi-temps. Pour finir par la conclusion. Et là, on va commencer par la conquête. Donc, je vous disais, il y a trois dimensions à la conquête. La première dimension que j'aimerais aborder, c'est la dimension de la mêlée. Quand vous recevez votre appel, il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses, ça peut être prendre une formation biblique ou autre, technique. Peut-être vous avez du temps à devoir aller chercher, abandonner certaines choses. Mais il y a un moment où vous devez agir. Vous devez agir, que ce soit des démarches administratives. Là, on parle de l'appel, mais on parle vraiment aussi de la destinée, que vous ayez des démarches administratives, que vous ayez des rendez-vous médicaux. Vous devez être actif, nous ne sommes pas passifs. Vous devez travailler dur pour atteindre vos objectifs, que ce soit professionnel, scolaire, spirituel, physique, familial, sportif, peu importe, quoi que vous fassiez, il faut faire un effort. Et à ce moment-là, au moment où le ballon de votre destinée et inséré dans la mêlée, à ce moment-là, ce n'est plus le moment de se dire « qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je suis à ma place ou pas ?» À ce moment-là, une fois que le ballon est introduit, il faut pousser. Il faut pousser. Il ne faut pas réfléchir, il faut pousser. Il faut aller chercher ce ballon. Parce qu'il y a une équipe en face, il y a des adversaires en face qui vont pousser aussi pour essayer de récupérer ce ballon de votre destinée. L'ennemi ne veut pas que vous récupériez le ballon de votre destinée. L'ennemi ne veut pas que vous travailliez, que vous œuvrez pour Jésus. Il ne veut pas. Il va tout faire pour vous en empêcher. À ce moment-là, il faut pousser fort, veiller, prier, persévérer, accompagner. Et dans la mêlée, ce n'est pas une course. Là, on n'est plus dans le domaine de la course. Là, c'est centimètre après centimètre. On y va pas après pas. On y va un pas à la fois. Dans la mêlée, c'est le temps de pousser un pas à la fois. Deuxième dimension, le contact. Le contact. À un moment, vous courez, vous êtes dans votre course, vous avez le ballon de votre destinée, vous courez, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas tout seul sur le terrain. On a parlé de l'adversaire pour la mêlée, il est aussi présent sur le terrain. Il forme une ligne défensive. Le contact, c'est quand vous allez rentrer dans le mur, dans le problème que l'ennemi, ou juste la vie, nous vivons dans un monde déchu, on est soumis à la maladie, etc., comme tous les hommes. Et il y a un moment donné où il peut y avoir un mur, un obstacle devant qui veut nous arrêter. Que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes financiers, ou peu importe, ça peut être un péché récalcitrant qui vous dit « Mais tant que j'ai ça, Seigneur, je ne peux pas te servir, je suis pas assez pur. » Et à ce moment-là, ce qui va déterminer la façon dont vous allez affronter ou passer ces obstacles, c'est la manière dont vous allez rentrer dedans. Il y a un moment donné où si vous y allez en disant, en reculant, là, wow, je suis pas sûr, à un moment donné, vous allez recevoir. Là, ça va être, comme on dit au rugby, vous allez prendre la foudre. Là, vous allez finir par terre, plaqué, etc. Alors que pour franchir ce mur, il faut y aller. Il faut y aller avec violence. Il y a quelques mois, c'était ma première prédication, je vous ai parlé de la violence. Comment, en fait, c'est s'efforcer. S'efforcer. Et là, je ne vous parle pas de violence physique, encore une fois. On parle de violence spirituelle. Et là, il ne faut pas y aller. C'est une chose que j'ai remarqué, que ce soit en contact ou en plaquage au rugby. Plus vous allez hésiter à y aller et plus vous allez subir l'impact. Alors que plus vous allez vous engager, plus vous allez être engagé dans le contact, plus ce sera facile, moins vous allez recevoir. Parfois, ça peut être un petit peu paradoxal quand vous voyez un gars qui fait 100 kilos vous foncer dessus. Le but, c'est le premier réflexe, c'est waouh, moi je veux pas y toucher, passe, je t'en prie. Mais non, faut y aller. On a une place à tenir. Et là, si vous mettez de l'engagement, si vous mettez de l'impact, à ce moment-là, vous avez pas mal. Vous avez pas mal, et lui, il va reculer. C'est ce qu'on nous apprenait. Ça ne veut pas dire ne pas réfléchir et y aller la tête la première. Ça veut dire ne pas aborder votre problème comme une victime. Souvent, quand quelque chose nous tombe dessus, un problème, une maladie, peu importe, notre premier réflexe, c'est « Pourquoi moi ? J'ai pas mérité ça. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là ?» Et plus vous allez vous victimiser, de toute façon, j'y peux rien, de toute façon, c'est comme ça, machin, moins vous allez avancer. À ce moment-là, il faut y aller en conquérant. Il faut y aller, ok, ça arrive. Maintenant, Seigneur, on va y aller ensemble. On va affronter le problème. Et quelle que soit l'issue, Seigneur, je suis conscient et je suis sûr, j'ai la foi que tu es avec moi dans ce contact. Je sais que tu vas m'aider à passer au-delà de ce mur. Je sais que tu vas m'aider à avancer. C'est une question d'attitude. Et j'aimerais vous illustrer ça avec Pierre, l'apôtre Pierre. Vous voyez, quand Jésus est arrêté, par trois fois, il a renié Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il aurait pu se dire ? Il aurait pu se dire, ok, non mais c'est pas un péché. Il y avait des gens, ils voulaient m'attraper, ils voulaient me tuer. J'étais obligé de le renier. Moi, c'est bon. Et puis, il aurait pu fuir. Il aurait pu fuir son péché. Il aurait pu en rester là où il en était. Mais c'est pas ce que Pierre a fait. Pierre, il s'est repenti. Il a fait... Pardon Jésus. Et on voit dans Jean 21, après la résurrection, Pierre marchait au bord du lac de Tibériade avec Jésus. Il prend un temps à part avec Jésus. Et dans ce temps-là, Jésus lui révèle des secrets cachés sur sa vie, sur son futur, sur sa destinée. Il lui révèle qu'il va devenir l'apôtre Pierre qui, quelques temps plus tard, à la Pentecôte, va prêcher et va toucher 3000 personnes. Parce que Pierre ne s'est pas positionné en victime. De là, en l'occurrence, c'était devant son péché, devant les circonstances qui l'accablaient, parce que l'apôtre Pierre a décidé d'aller de l'avant, de se repentir, alors il a été élevé, glorifié par Dieu. Il a été utilisé puissamment par Dieu. Il a été aimé par Dieu. Les 8 mai, ça ne vous fera jamais avancer. Le 8 mai ne vous fait jamais avancer. Mais la repentance va vous propulser. Et là, on va passer à la touche. La touche. Par moment, ce mur devant est infranchissable. Et là, humainement, on peut faire tous les efforts qu'on fait, c'est trop grand pour nous. On ne peut pas y aller. Et à ce moment-là, on a deux choix. Le premier choix, c'est de continuer, s'entêter, croire qu'on est capable, croire qu'on peut y arriver. Hein. Ouais, moi, je vais y arriver tout seul. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et là, à force de rentrer dans le mur, vous allez vous épuiser, vous allez vous affaiblir. Vous n'allez pas y arriver. À ce moment-là, c'est le moment de botter en touche. Botter en touche ne veut pas dire abandonner. Botter en touche ne veut pas dire baisser les bras. Botter en touche, pardon, veut dire lâcher prise. Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise ? Ça veut dire, Seigneur, cette situation est trop grande pour moi, ce mur, je ne peux pas le franchir. Ce mur, je ne peux pas rentrer dedans parce que je vais m'épuiser dessus. Seigneur, hop, je te donne la balle de ma destinée. Et là, vous bottez en touche. Et vous marchez tranquillement pour remonter le terrain. Et au moment venu, le moment où ce mur sera franchi, le moment où ce sera le temps de récupérer ce ballon de votre destinée, alors Dieu va vous propulser. Il va vous élever pour que vous puissiez rattraper le ballon, pour que vous puissiez continuer à avancer. C'est le lâcher prise. Et parfois, devant ce mur, on va continuer à marteler. Et parfois, on ne va pas juste se fatiguer, mais on va juste perdre le contrôle. Et ce moment-là, ça va être le moment du tas ou du roc. C'est un moment où on va s'écrouler. On va tomber par terre, on n'est juste plus capable, les situations sont, ça nous submerge, on n'arrive plus à botter en touche, on ne peut plus lâcher prise. Et là, on est vraiment submergé par les problèmes, submergé par la tristesse, submergé par l'angoisse, l'anxiété, etc. Et à ce moment-là, ça devient le chaos. À ce moment-là, ok, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ressemble plus à du chaos qu'à quelque chose d'organisé. On est tous d'accord ? Ouais ? Ok. J'ai vécu dedans pendant quelques années, je vous garantis que c'est le chaos dedans. Ce qui reste dans le rock, ce qui se passe dans le rock reste dans le rock, mais je vous garantis que c'est le chaos. Nos vies prennent une forme de chaos. Elles sont informes. Elles ne sont plus structurées. Et comment Dieu va gérer ce chaos ? Cette réponse, on le trouve dans Genèse 1. Il y a quelques mois en arrière, lors d'un cours de survol de l'Ancien Testament, j'ai découvert ce principe de Genèse 1. On l'a vu plus en détail avec le groupe de jeunes. Je ne vais pas trop le détailler ce matin, mais juste amener les deux problématiques de Genèse 1. Au verset 2, la problématique, c'était que la terre était informe et la terre était vide. En d'autres termes, dans certaines traductions, c'est le chaos. Et comment Dieu va agir dans ces moments de chaos. Nous allons le voir dans le reste du chapitre. Je vous laisserai lire les versets, chez vous. Mais vous allez voir que les trois premiers jours répondent à la problématique de l'informe et les trois suivants vont répondre à la problématique du vide. Et qu'est-ce que Dieu a fait à partir de tout ça ? Dieu a fait des merveilles à partir du chaos, à partir du vide. À partir de l'informe, Dieu a créé cette terre, cet univers, cette faune, cette flore magnifique, aux couleurs tellement diverses, qui parfois on peut tellement être émerveillé devant la magnificence de cette création, la puissance dont Dieu a fait preuve pour créer tout ça. Les montagnes apparaissent, les animaux, la végétation, etc. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vivre un moment de chaos, un moment dans vos vies où votre situation, elle est informe, elle est vide. Vide si ce n'est pleine d'angoisse, pleine d'anxiété, pleine de maladies, pleine de doutes, peut-être, ou autre. Et à ce moment-là, souvenez-vous de Genèse 1, souvenez-vous de ce que Dieu a fait à partir de rien. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait à partir du chaos. Dieu est en train d'agir dans votre chaos. Juste si on peut revenir à la diapo du rock. Quand vous êtes dans votre moment de chaos, il y a quelque chose qui se passe. C'est que là, on a l'impression que c'est déstructuré. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a une bataille qui se mène à l'intérieur. Cette bataille pour ne pas perdre le ballon de la destinée. On doit le faire sortir, ce ballon. Mais ce qu'on ne voit pas sur ces photos, c'est que derrière, il y a toute une ligne d'attaque qui est en train de s'organiser. Derrière, il y a 8, 9, 10 joueurs qui sont en train de se mettre en position pour qu'une fois que le ballon soit sorti, on y retourne. On y retourne, on y va, on recommence la course. Et c'est ça ce que Dieu fait dans nos vies. Si vous avez une vie chaotique aujourd'hui, alors restez confiant parce que le Seigneur va la propulser. Le Seigneur va changer tout ça, va transformer tout ça, va agir. Le Créateur puissant va créer à partir de rien des choses magnifiques dans vos vies. Le chaos est la matière première préférée du Saint-Esprit. Le chaos peut paraître comme quelque chose qui va nous stopper. En réalité, le chaos est un tremplin. C'est un tremplin vers le prochain niveau. Mais quoi qu'il se passe, quoi que nous fassions, on peut prendre ces trois dimensions, mais tout seul, on n'y arrivera pas. Tout seul, ce n'est pas possible. J'ai assez individualisé chacune des trois dimensions, mais il y a une phase, un principe qui est important. Il est en troisième position, c'est l'équipe. On ne peut pas y arriver tout seul. On sait que le Seigneur est avec nous constamment, il agit avec nous, mais nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de chacun d'entre nous. Et je ne parle pas forcément que de préfet-saint. Ce n'est pas préfet-saint, être préfet-saint. Non, non. Quand il y a eu des problèmes au Burkina, quand il a fallu agir, quand il a fallu aider nos frères et nos sœurs qui souffrent en Afrique, nous nous sommes mobilisés. Jean-Daniel nous en parlera plus tard. Nous nous sommes mobilisés pour venir en aide à nos collègues. Dans la mêlée, vous n'êtes pas seul à pousser. Vous avez les copains, vous avez les camarades, vous êtes soudés dans la mêlée, vous êtes liés. La force d'une mêlée, c'est ce fait qu'elle ne se désintègre pas. Plus la mêlée va être contact, va être liée, et plus elle va être puissante. Et là, on parle, dans le terme pratique, de 600, 700 kilos, parfois 900 kilos, de bonhommes qui poussent en face de vous. Et là, on a besoin d'être les uns avec les autres. Parfois, la pression est trop forte, et tout seul, on ne pourrait pas la retenir. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Et même lorsque tout va mal, surtout lorsque tout va mal, nous sommes les uns avec les autres, nous devons nous soutenir. Quand un frère, une sœur est à terre, on ne la laisse pas par terre, on n'abandonne personne. On la ramasse, on l'aide, on la porte, on la soutient, on l'accompagne. Pour citer Pasteur Phil, il y a quelque temps, on a fait la journée des hommes. Et un des slogans, c'était « Ensemble, plus fort ». Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on peut s'épauler. Ensemble, vous ne portez pas tout seul le ballon de votre destinée. Au rugby, on fait circuler ce ballon, on aide. Il y a un obstacle, hop, on le passe, on avance, hop, on nous le repasse. On fait circuler pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. D'ailleurs, c'est assez paradoxal. Dans le rugby, pour ceux qui ne connaissent pas, les passes sont faites vers l'arrière. Vous n'avez pas le droit de passer le ballon vers l'avant. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait pourquoi on fait des passes en arrière au rugby? Non? Bah parce que sinon, il y a en avant. C'est vrai? C'est pas vrai? C'est ça, c'est une faute. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une faute en avant. Ok. Quel principe tirer de cette passe en arrière? Parfois, dans vos vies, vous pouvez avoir l'impression de reculer, vous pouvez avoir l'impression de ne plus avancer. Continuez à courir, mais sans avancer. Mais en fait, connaissez le dicton, l'expression « reculer pour mieux sauter » Parfois, dans nos vies, c'est ça. On voit quelque chose devant, on voit quelque chose dans la vie, on a envie de courir, mais ce n'est pas le temps, c'est trop tôt. Et il y a un moment où il faut faire un pas en arrière, et puis là, après, on va pouvoir reprendre de l'élan pour pouvoir surmonter cet obstacle. Et parfois, vous avez besoin juste de prendre un peu de recul, de passer le ballon, en jargon rugbystique, de passer le bébé à votre collègue. Et là, lui, il va pouvoir vous aider à avancer. Il va pouvoir vous aider à gagner ces mètres, ces centimètres, ces millimètres pour pouvoir avancer, toujours avancer. Quand vous ne reculez pas, vous avancez. Et quand vous reculez, vous ne pouvez plus qu'avancer. Tout seul, tu ne peux pas porter ta destinée. C'est pour ça que Jésus nous a organisés, nous a unis comme un corps. Un corps est dépendant de ses membres. Chaque membre est dépendant des autres pour avoir un bon fonctionnement. Pour nous, c'est pareil. Pour l'Église, nous sommes le corps de Christ. Nous fonctionnons ensemble, nous fonctionnons en unité. Et on arrive à la phase la plus intéressante, la meilleure, la mi-temps. Ok, je vais juste faire un petit disclaimer, je ne parle pas de troisième mi-temps. Là, je parle de la mi-temps sur le terrain. Okay. Là, c'est ce qu'on appelle aussi au rugby le temps des citrons. Ce moment où on se reposait, on pouvait souffler, ce moment où on avait des quartiers de citrons, des quartiers d'oranges et de l'eau à disposition. Ce moment qu'on passait ensemble encore, unis, pas chacun de son côté. C'est fou de savoir comme quoi un aussi petit fruit, un petit quartier de citron ou d'orange peut te faire du bien à ce moment-là. Ça propulse, ça te redonne des forces, de l'énergie. Ce moment-là, ça représente le temps où on va se détendre. Le temps où, ok, on n'arrête pas de courir, on n'arrête pas de courir, on fonce, on plaque, on se lève, on saute, on pousse, etc. etc. Ce moment-là, c'est « wow, stop ». Là, j'ai besoin de faire un break. Là, j'ai besoin de prendre un petit peu de calme. Et à ce moment-là, vous voyez, là, ils sont en rond. C'est pas pour rien qu'ils sont en rond. Vous avez le coach au milieu qui leur parle, le coach qui leur donne des directives, qui les encourage. Et c'est ça qu'on fait à ce moment-là. À ce moment-là, on arrête, on stoppe et on se met à l'écoute. On se met à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. On se met à l'écoute pour connaître, pour découvrir les stratégies que Dieu veut nous apporter. Les fruits, les quartiers d'orange, les quartiers de citron que Jésus va nous donner, va renouveler nos forces. Ces moments où il va nous apaiser, ces moments où il va nous abreuver de son eau. Plusieurs fois dans les évangiles, on va voir Jésus partir, quitter l'endroit où il est, quitter la présence des disciples et aller dans un endroit isolé pour prier. Parce que Jésus avait besoin de se retrouver avec son Père. Il avait besoin de ces moments de mi-temps où il stoppait tout, il n'y avait plus de contact, si ce n'est avec son Père. Et c'est dans ces moments-là où il allait chercher sa force, sa puissance, sa persévérance. Il allait aussi rechercher le réconfort de son Père. Plusieurs fois, on pouvait lire, Jésus était attristé, était ému, et il allait chercher le réconfort de son Père. Ne négligeons pas ces temps de mi-temps, ces temps de calme, ces temps de paix dans lesquels nous pouvons nous ressourcer, nous pouvons nous abreuver, nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu. C'est important. J'aimerais en finir avec ces quatre phases et vous donner deux images. La première, ça c'est l'ennemi. Ça c'est l'ennemi. Parfois, juste avant le coup d'envoi, vous allez avoir l'ennemi qui va venir et qui va essayer de vous déstabiliser, il va essayer de vous faire peur pour pas que vous rentrez sur le terrain ou alors pour que vous ne soyez pas productif. À ce moment-là, bon, eux, c'est une danse guerrière qui est plus aujourd'hui une danse de dissuasion plus que spirituelle, mais elle est faite pour déstabiliser l'adversaire. Elle est là pour nous intimider. Mais jamais, jamais, pendant ce moment-là, les gens n'ont le droit de se toucher. Il y a une image où il y a l'équipe de France, pendant que les All Blacks font le haka, où toute l'équipe de France se tient soudée comme ça et avance tous ensemble sur une ligne. Et eux, dans leur haka, ils avancent aussi. Ils se retrouvent à 20-30 cm les uns des autres. Mais jamais, ils n'ont le droit de se toucher. Ce n'est que de la dissuasion. Ce n'est que de la dissuasion. Maintenant, j'aimerais juste vous dire ce que eux voient en face, ce que l'ennemi, notre adversaire, voit en face quand vous vous tenez devant lui. Et cette description, c'est Jésus. Jésus qui vit en nous. Et cette description, on va la trouver dans Apocalypse 19, versets 11 à 16. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom était la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur les chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Voilà ce que l'ennemi voit quand vous vous tenez devant lui. Il ne vous voit pas, vous, comme étant humain, faible, pécheur. Il voit Jésus, Jésus qui vit en vous. Vous acceptez Jésus, vous recevez sa vie. Vous recevez sa vie. Et à ce moment-là, quand là, ils sont en train de faire leur AK, juste tenez-vous devant eux. Et là, ils vont voir ce Jésus avec des flammes qui sortent des yeux, avec cette épée à double tranchant, cette parole de Dieu qui est puissante. Ils vont voir ce juste juge devant. Et c'est eux qui vont trembler. C'est pas à vous de trembler, c'est à eux de trembler. Vous avez la puissance de Jésus en vous. Vous avez cette puissance, cette destinée, ce combat. Vous l'avez déjà gagné. Quand vous rentrez sur le terrain de rugby, vous pouvez pas connaître le score, le résultat à l'avance. Là, on a le résultat, on le connaît. Le résultat, c'est qu'on est vainqueur par Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Et on ne combat pas pour rien. Il y a une suite après. Et la suite, c'est la terre promise. C'est marrant, parce que l'embut, c'est toute cette partie derrière les poteaux. En rugby, on appelle ça la terre promise. Et c'est là que nous devons aller aplatir le ballon pour marquer le point. Et c'est là que nous devons aller aujourd'hui pour marquer le point, pour, comme nous dit Paul, remporter la couronne de gloire. Jésus va nous la donner. À tous ceux qui auront aimé sa manifestation, la manifestation du salut, la manifestation de l'œuvre de Jésus à la croix. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui l'acceptent comme sauveur, aujourd'hui, iront aplatir le ballon de leur destinée dans la terre promise. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit le traumatisme de votre cours, quelle que soit la dureté de ce que vous avez vécu sur cette terre, c'est là que vous finirez. Et là, maintenant, j'aimerais juste vous lire un passage encore dans Apocalypse, au verset 21. Au chapitre 21, versets 3, 4 et le 7. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » car ce qui existait avant a disparu. Le vainqueur, celui qui ira aplatir son ballon à la terre promise, recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà ce qui nous attend à la fin. Aujourd'hui, nous combattons, aujourd'hui, nous devons subir parfois les aléas de cette vie, parfois nous devons prendre une mêlée, nous devons rentrer, nous devons prendre un contact, nous sommes élevés en touche, nous allons à droite, à gauche, mais un jour, nous nous retrouverons aux cieux, à la terre promise, nous aplatirons le ballon de notre destinée derrière les poteaux. Et à ce moment-là, plus de cris, plus de combats, plus de mêlées. Plus de contact, si ce n'est le contact permanent avec Dieu. Plus de souffrance. C'est génial, c'est ça qui nous attend. Si nous persévérons, si nous continuons ensemble, tous ensemble, à aller de l'avant, malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut arriver, gardons confiance, soutenons-nous les uns les autres. Soyons plus qu'un corps, soyons une famille. Une famille en Christ, une famille unie par le Saint-Esprit. J'aimerais juste terminer ce moment par la prière et j'aimerais inviter Jean-Daniel, Pascaline, Florent, si tu veux nous rejoindre aussi, et les anciens. J'aimerais juste pouvoir prier pour vous aussi et vous bénir pour la suite. Ouais, Père éternel, j'aimerais te bénir, Seigneur, j'aimerais te louer pour cette assemblée. Je te remercie pour chaque personne présente ce matin et chaque personne qui ne peut pas être avec nous ce matin. Seigneur, je te les remets, je te remets cette rentrée, je te mets cette reprise. Et je te prie pour que tu puisses encore agir dans nos vies, Seigneur, que tu nous aides à courir cette course, à aller jusqu'au bout de la destinée que tu as prévue pour nous, Seigneur. Fortifie-nous, permets-nous d'agir de la bonne façon quand l'épreuve et la souffrance viennent taper à nos portes, Seigneur. Et je te remercie, je te bénis particulièrement pour Jean-Daniel et Pascaline et pour Florent, Seigneur. Je te remercie pour ces serviteurs, Seigneur, ces disciples pour toi. Je te remets vraiment leur mission, Seigneur, et leur travail en Afrique. Et je te prie de les bénir, Seigneur, de les protéger. Je te prie de renouveler leur force, Père. Je te prie que leur action n'ait pas qu'une portée terrestre, Seigneur, mais qu'elle résonne dans l'éternité. Je te prie qu'à leur retour, ils retrouvent tout comme c'était avant, Seigneur, et que toutes leurs équipes puissent être aussi renouvelées, restaurées et encouragées pour cette rentrée des classes, Seigneur. Amen.
Bonjour à tous. On est heureux d'être là parmi vous. Il faut rester. Hein. On est ensemble. Je ne sais pas si des photos ou des vidéos vont passer. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais encouragé par ce temps de culte. On a parlé de l'amour, l'amour qui dépasse tout, l'amour qui permet de déplacer des montagnes. Pas l'amour humain, l'amour philéo, mais l'amour agapé. L'amour de Dieu en nous, qui est capable de nous faire oublier pour aller aider, soutenir les autres et mon frère. Et puis, j'ai beaucoup aimé le message apporté par mon frère Pierre. On sent que Dieu te conduit, tu es dirigé, on voit la révélation dans le message que tu donnes. Alors moi, ça tombe bien, j'aime beaucoup le rugby. Donc tout m'a parlé du début à la fin. Mais même si jamais tu n'aimes pas le rugby, je suis convaincu que le Seigneur t'a parlé. Je vous encourage à réécouter le message et je vous encourage... Moi, j'ai toujours mon petit cahier à prendre des notes, ça fait très vieillot. Mais franchement, je suis convaincu que chacun d'entre nous, on a reçu notre part ce matin. Tout le message n'est pas pour tout le monde. Mais chacun a pu avoir sa perle, sa nourriture spirituelle pour la semaine qui vient. Et c'est important de la noter pour ne pas l'oublier, de la méditer quand vous allez rentrer dans la semaine. Et c'est ça qui va vous conduire jusqu'au dimanche prochain à la nouvelle étape où une nouvelle nourriture va arriver. Et avec mon épouse Pascaline, on est heureux d'être parmi vous ce matin parce que vous avez vécu avec nous non seulement ce temps d'amour pour le peuple de Dieu au Burkina, mais également vous avez participé à ce combat. Ce combat n'est pas terrestre, il est céleste. C'est un combat qui se répand sur toute la terre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de « je ne peux pas prendre position ». Non, tu es obligé de prendre position. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Et donc tu collabores avec Satan. Et ce combat, il prend des formes multiples et variées. Satan s'adaptant au terrain, Satan s'adaptant aux équipes qui jouent en face de lui. Et au Burkina, ça a pris la nature, pas de rebelles, c'est encore plus que ça, c'est du djihadisme, donc un intégrisme violent qui est en train de descendre du nord vers le sud. Mais vous savez, le pire dans tout ça, c'est qu'on avait été averti. Brillant Tadfort, tout le monde le connaît, il m'a appelé il y a 5 ans en arrière, me donner un passage d'Ésaïe et me dire « Priez, le vent du nord est en train de venir ». Et on ne comprenait pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se disent « Oh, le pauvre Burkina, etc. » Mais la Bible nous dit « Rendez grâce en toute chose, en toute circonstance. » Et nous, on rend grâce pour ce qui est en train de se passer, parce que c'est en train de réveiller l'Église. C'est en train de réveiller les Églises au-delà des dénominations, réveiller les gens à s'enraciner à nouveau dans la parole et être des témoins vivants de l'amour de Christ partout où il nous a placés. Et là où vous êtes aujourd'hui, vous avez fait partie d'un corps. Et je vous transmets vraiment toute l'affection, tous les remerciements de ces frères et sœurs que vous avez aidés au Burkina. Parce que tout ce qu'on voit, donc ces réfugiés aujourd'hui, il y a 250 000 réfugiés internes en moins de 3 à 4 mois. C'est quelque chose qui n'a jamais existé au Burkina, où les religions habitaient et coexistaient en paix, que ce soit l'islam avec les catholiques et les chrétiens, et on a un mouvement radical qui est arrivé de manière très rapide, qui semble avoir surpris tout le monde, et très violent. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui part du Nord, qui est à la fois un conflit religieux, mais doublé d'un conflit ethnique, et doublé également d'un conflit politique. Ceux qui suivent le Burkina, vous savez qu'on a un chef d'État qui a été chassé du pouvoir il y a quelques années en arrière, et il est en train, avec son ancien parti, de rentrer dans le jeu en favorisant ses extrémismes, et en soufflant sur les braises, en amenant la haine, le jugement, les uns sur les autres. Et l'Église, j'avoue qu'avec mon épouse, on était vraiment, on s'est senti tout petit. Quand on est arrivé il y a une dizaine, bon, il y a à peu près 2 mois, chez un pasteur, dans la zone du Nord, qui est à 100 km de chez nous, hein. Nous, on ne ressent pas ces tensions. Mais à 100 km, on a une ville où il y a 35 000 réfugiés. À 100 km, il y a une autre ville où il y a 20 000 réfugiés, sans aucun camp pour les accueillir, sans eau, sans électricité, sans nourriture. Et quand on a vu ce pasteur qui coordonnait cette zone, on l'a vu avec mon épouse totalement effondrée. Un gaillard d'une quarantaine d'années, un charisme, une foi incroyable, mais il était au bout du rouleau. Il voyait plus d'espérance. Il dit, je vais aller les visiter, là où personne ne veut aller. Ça, j'ai pas peur, mais je peux pas aller les mains vides. Et quand on a vu ça avec Pascaline, on s'est dit, mais voilà, on a encore un pont, on sert de pont entre l'Europe et l'Afrique, et on sait que nous, on peut mobiliser des gens derrière. Les gens sont venus, les gens connaissent. Et on est dans une région plus riche que là-bas. Et beaucoup d'entre vous avez ouvert votre cœur. L'esprit, l'Église vraiment a ouvert son cœur, a ouvert le porte-monnaie, vous avez fait au-delà de nos espérances. Et avec l'aide que vous avez pu envoyer, on a pu, ben voilà le pasteur de Corcy-Moreau, qui est le coordonnateur avec son épouse, et le pasteur de Barsalgo, qui est la ville la plus touchée. Et vous avez pu, on a pu faire 2 forages. À l'époque, un bidon de 20 litres d'eau potable coûtait 1 franc suisse. 20 litres, 1 franc suisse. Inimaginable pour les gens là-bas, ce n'est pas possible. Pas d'abri non plus pour les réfugiés. Les réfugiés sont partis, vous avez vu, il y a tout. Tout est entassé, tout est en tas, et c'est en plein air, en pleine saison pluvieuse. Toutes les écoles sont réquisitionnées, c'est les enfants qui dorment là-bas. Chez le pasteur, il y avait 35 adultes. Une petite maison avec 2 chambres. Le pasteur dit, quand je rentre chez moi, j'enjambe et je fais attention de ne pas piétiner les corps. Et c'est les adultes. On a séparé les enfants et les adultes pour mettre les enfants dans les écoles. Donc vous avez vraiment été les bras et les mains de Jésus. Et quand Pierre m'a parlé des premiers dons qui ont été faits, ça nous a complètement dépassés, je lui ai dit, écoute, tout de suite, le passage qui m'est venu en tête, c'est Matthieu 25. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand est-ce qu'on t'a vu malade et qu'on t'a soigné? Quand est-ce qu'on t'a vu en prison et on t'a visité? » Et le roi vous répondra, à vous l'Église de Prévesin, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères au Burkina, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Vous avez semé dans le champ de Dieu, vous récolterez au moment opportun. Ça ne sera pas forcément l'argent, mais la bénédiction d'une église unie, la bénédiction d'une famille où les enfants sont en Christ, la bénédiction d'avoir un travail qui nourrit sa famille. On est convaincu que des grandes bénédictions vont venir sur cette assemblée. Ça a déjà commencé, mais ça va continuer. On est convaincu que d'autres jeunes vont se lever, vont continuer à rentrer dans le ministère que Dieu a préparé par avance pour vous, afin que vous pratiquiez les bonnes œuvres prévues dans le pays de Gex, où le témoignage doit être vivant et doit être puissant. Et je suis convaincu aussi, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui prient pour votre assemblée. Des centaines de personnes que vous n'avez jamais vues, mais qui disent « Merci Seigneur, bénis ses frères et ses sœurs, ils ne nous connaissent pas, ils ne nous ont jamais vus, mais ils n'ont pas fermé la porte de leur cœur, et non seulement ils prient pour nous, mais ils nous soutiennent. » Ça, c'est le forage à Piscilla. Tout le monde, c'était sur une colline. Tout le monde a dit, il n'y aura pas d'eau. C'est pas possible. Tous les chefs de terre, qui sont les animistes, sont venus s'asseoir. Les musulmans sont venus s'asseoir, bras croisés, pendant que ça forait. Ça, il n'a pas fumé ça, malheureusement, le pasteur. Et tout le monde attendait l'échec. Tout le monde attendait que l'eau ne sorte pas. Et non seulement l'eau est sortie, mais c'est un forage qui est à 5 mètres cubes heure. Donc ça veut dire que c'est un forage important. Et pas très profond. On a eu l'eau à 50 mètres jusqu'à 63 mètres. Ça, c'est à Barsalgo. La pompe fonctionne. Donc les gens maintenant, alors là c'était au début des travaux, mais il faut imaginer maintenant à Piscilla et à Barsalgo, qui sont les deux villes où vous avez aidé, il y a des fils. Donc les gens ont réfléchi, ils ont dit, mais et si on gâte le forage, comment on fait pour réparer? Donc ils ont fait une sorte de commission pour gérer. Ils ont dit, tous les réfugiés loués gratuites, ils viennent tant qu'ils veulent. Mais les gens du quartier qui habitent sur place, ils vont payer une petite quelque chose. 5 francs CFA pour le bidon de 20 litres. Donc on va dire moins de 1 centime suisse. Et on met ça de côté sur un compte, et s'il y a une panne, on pourra réparer. Et ce n'est pas nous qui leur avons dit. Donc ils ont déjà la sagesse de prévoir l'après. Les dons étaient faits, mais ça va continuer. Ça, c'est l'église de Piscilla. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, là, c'est pas moi qui ai pu y aller. Je voulais y aller. Ma chère femme m'a dit « Tout le monde m'a dit « Et moi, j'étais sûr qu'il fallait que j'y aille, et les gens m'ont dit « Non, ça serait une provocation. » Comme les tensions sont trop fortes, si un Européen va là-bas, d'abord, comment ça va être pris par les musulmans? Et puis deuxièmement, ben, vous savez, il n'y a pas que des réfugiés. Parmi les réfugiés, il y a des brebis galeuses. Un petit coup de fil, je n'avais pas pensé à ça, et puis on t'attend sur le chemin du retour, et il faut être sage aussi, parce que Dieu nous demande d'être sage. Et même si on n'est pas présent, on soutient. Et on a pu aller jusqu'à 40 km. 40 km. Et donc, l'argent de l'Église a été utilisé en 3 tranches. 2 forages complets et de l'aide alimentaire. Avant qu'on parte, on a fait un dernier don de votre part, où ils ont pu acheter des centaines de kilos de poissons, des centaines de litres d'huile, pour pouvoir préparer le riz que l'église du pasteur Carambiré a envoyé là-bas. Il avait envoyé 7 tonnes de nourriture, mais des céréales brutes. Et les gens n'ont pas pensé que bah, le riz, c'est bien, mais si on ne peut rien préparer avec, ça va être compliqué. Et puis également du gaz, parce qu'actuellement, dans ces villes, il y a une sécurité maintenant, mais les gens ne peuvent plus sortir aller cueillir du bois ou aller ramasser du bois pour préparer, parce que les gens sont abattus. Et je vais terminer en vous expliquant quelle est la logique de ces gens-là. C'est faire régner la terreur pour vider les villages. Ils ont l'idée de construire une sorte de nouveau califat islamique sur le nord du Burkina, le nord du Niger et le nord du Mali. Et l'objectif, c'est d'avoir un territoire où on a vidé toute la population qui n'est pas soit d'origine peul, qui sont les musulmans les plus durs de la zone, ou musulmanes qui partagent leurs convictions. Et quelle est la politique? Ils arrivent dans un village et ils tuent les hommes. Ils violent les femmes, on les bastonne, mais on les laisse partir. Et on se retrouve avec des villages où, dès qu'ils ont été vidés, on emmène les troupeaux, on fend les greniers, on les vide et on les brûle. La politique, c'est qu'ils ne puissent pas revenir. Et on est en pleine saison pluvieuse. Ce qui veut dire que l'aide qu'on a aujourd'hui, ça sera une aide qui va être obligée de perdurer pendant l'année qui vient, puisqu'ils n'ont pas pu semer. Si on ne peut pas semer en saison pluvieuse, il n'y aura pas de récolte en octobre. Et on sait que maintenant, il faut attendre les prochaines récoltes en 2020, octobre 2020. Donc c'est un travail de longue haleine, où il y a vraiment les frères et sœurs ont besoin d'être encouragés et de prier. Et je vous assure, les sourires, les cris des enfants, les prières qui sont montées devant le trône de la grâce pour cette église de Prefsaint, moi, ça me dépasse, franchement. Et il faut savoir que vraiment, vous avez redonné un espoir. Vous avez redonné le sourire à des enfants, à des pasteurs. Et au-delà de ça, vous avez amené des gens à Christ. Des familles musulmanes entières se sont converties suite à l'aide alimentaire. Parce que les gens ont dit, on n'avait pas vu l'amour de Dieu de manière concrète et visible. Et le fait que vous, non seulement vous soyez venus prier pour nous, nous encourager, nous visiter, amener ces forages d'eau et amener à manger, ben, il n'y a plus besoin d'aller voir où est le vrai Dieu, c'est celui-ci. Et le Dieu de Jésus-Christ, ils l'ont adoré, ils se sont mis à genoux et des familles entières ont confessé Christ grâce à vous. Et vous savez que la Bible dit que pour un seul de ces petits qui se repent, c'est la joie dans le ciel. Donc imaginez, tu parlais de la mi-temps, la troisième mi-temps. Actuellement, il y avait une troisième mi-temps dans le ciel par rapport à vos actes qui ont une portée éternelle. Comme l'a dit tout à l'heure Pierre, tout acte que vous posez, toute aide et toute prière que vous avez posée, tout argent que vous avez semé a une portée pour vos familles et pour vous-même et pour l'Église dans l'éternité. Donc que Dieu vous bénisse. Elle n'a pas beaucoup parlé, mais sans elle, il n'y a rien. Tu veux ajouter quelque chose?
Moi, je tiens à vous dire vraiment merci pour ma nation.
Soyez bénis et que Dieu continue à soutenir cette église.
Ok. merci pour ces mots d'encouragement. Je pense qu'on en a tous, ce matin là pour le carburant pour la semaine, comme tu as dit. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine pour venir chercher le carburant pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à profiter de Jean-Daniel et Pascaline à la sortie. Je pense qu'ils seront un petit peu dispo. Ouais. N'hésitez pas aussi à profiter de Florent. Vous le connaissez beaucoup moins. Moi, je le connais très bien depuis 15 ans. Et c'est un curieux hasard, mais il fait la même chose que vous, mais au Tchad. Burkina Faso, Tchad, de l'enseignement dans les écoles chrétiennes, de la formation, tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire sa connaissance et profiter d'échanger avec des frères et sœurs qui nous visitent de loin ou de près. À la sortie, vous trouverez des tables sur lesquelles on a mis tout un tas de trucs qui traînaient dans l'église depuis longtemps. Les tables à chenilles, donc jetez un œil dessus, si c'est à vous, vous le prenez. Et ouais, regardez bien, sinon ça va bientôt partir ailleurs.
Il y a aussi là plein de clés qu'on a trouvées. Alors, il y en a qui sont venus en voiture, qui ont laissé les clés, c'est dommage. On a trouvé les voitures.
Ok, si vous trouvez la voiture, vous l'avez gagnée. la voiture qui va avec. Donc les vêtements, les clés. Dimanche prochain, on n'a pas d'activité cette semaine encore, c'est la dernière semaine sans activité, mais après on remet le moteur, on remet le courant là, et ça va repartir. Dimanche prochain, on reprend l'école du dimanche, donc pour les parents, l'école du dimanche reprend à partir de dimanche prochain, on sera tous ensemble la partie louange, et après les enfants iront dans les écoles du dimanche. Une dernière annonce, le concert de Lucea qui a lieu le 14 septembre, merci. Lucea ou Lucea, je ne vais pas y arriver. Lucea. Donc, qui aura lieu chez nous le 14 septembre à 20h. Donc, notez ça dans vos agendas. Ça va être un bon moment pour leur premier concert. On est content qu'ils le fassent ici. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, n'oubliez pas le 7-1, le 6-1. Moi, il m'a beaucoup parlé, là. N'oubliez pas l'amour.